L'Happy Hour scientifique.
Assez goûtu, hein. Ça a du retour.
La rigueur du savoir, la passion du comptoir. Un jeudi par mois à 20h sur Radio Campus Paris.
Avec bonne santé, les gueux.
Bonjour et bienvenue à l'Happy Hour scientifique en direct sur Radio Campus Paris. Il est 20h03. Donc aujourd'hui, pour cette dernière émission estivale, nous vous proposons de parler des actualités en sciences de 2024. Donc sous le format de gorgées de sciences ou de jeux, de nombreuses thématiques seront abordées pour varier les plaisirs. L'été se termine et on a voulu se faire kiffer une dernière fois avec des sujets qui nous tiennent à cœur. Donc on ne reçoit pas d'invité aujourd'hui, mais une équipe de fous pour parler de leur dernier coup de cœur en science. Donc nous sommes en compagnie de Alice, qui va nous ramener à la préhistoire.
Bonsoir.
De Marion, avec son récap des prix Nobel 2024.
Hello.
Sacha, qui ne va pas consommer, mais parler de psychédéliques.
Salut les jeunes.
Tom et ses dangereuses molécules.
Salut.
Et Jocelyn et PY à la technique.
Hello. Salut.
Et je me présente aussi, je suis Chiara et j'animerai cette nouvelle émission de l'Happy Hour scientifique ainsi qu'un petit jeu plus tard, un caps ou pas caps. Pour commencer, j'avais envie de garder notre rituel des shots à l'invité, mais cette fois-ci on peut dire que c'est un peu vous, mes invités autour de cette table.
Trop
donc
bien.
C'est
les
parti.
Les meilleurs invités jamais invités.
On va prendre un petit shooter du bar.
Alors, ou vous suivez votre intuition, ou vous vous dégonflez.
Et du coup, on trinque à la tienne.
Donc je rappelle le concept, une minute pour répondre à un maximum de questions le plus vite possible et je vous les pose chacun et chacune à tour de rôle. Est-ce que tout le monde est prêt?
Ouais, allez, hyper prêt. Qui a la pression?
Ok, c'est parti. Alice, ton domaine scientifique préféré?
La biologie.
Marion, un scientifique avec qui tu aimerais discuter?
Jean-Claude Amezen, vu qu'on est à la radio et que j'en ai parlé tout à l'heure.
Sacha, ta drogue psychédélique préférée?
Le LSD, bien sûr.
Tom, si tu pouvais faire une découverte révolutionnaire, ce serait quoi?
Ce qu'il y a en dehors de l'univers connu.
Ok. PY, ta molécule préférée?
C'est quoi une molécule?
Ça sera
la réponse.
Réponds l'éthanol.
Jocelyn, ton sociologue préféré?
Au hasard, Bourdieu.
Bourdieu, très bonne réponse. Ok, bah merci à tout le monde pour votre participation. Vous avez été beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter?
Non.
Eh, ça tombe bien parce que c'est terminé.
Il faudrait des shots pendant les shots.
Bah, je note juste que mes questions étaient un peu moins bien que ta drogue psychédélique préférée. Mais bon, après,
excuse-moi,
il y a du favoritisme.
J'ai choisi mon sujet aussi.
Désolé, je hiérarchise les questions.
On va pouvoir parler LSD dans l'émission. Si vraiment Marion t'as besoin, ne t'inquiète pas. Donc merci pour votre participation et maintenant nous plongeons dans le cœur de notre émission avec les gorgées de science d'Alice.
Ouh.
Tu m'offrirais une gorgée de cet excellent breuvage pour rincer tout ça.
Alice, tu vas nous parler d'un nouveau fossile d'homme de Néandertal découvert dans la Drôme.
Oui, exactement. Donc c'est une actu qui est parue le 11 septembre dernier dans la revue Cell Genomics. Et en fait c'est une découverte qui datait en fait de 2015. Ils ont trouvé un fossile à l'entrée de la grotte Mandrin, qui est une grotte à Malataverne qui surplombe la vallée du Rhône. Et c'est marrant parce que... alors, je voulais
donc c'est en France?
Ah, c'est en France, okay, ouais. Okay. Et en fait, c'est un fossile qu'ils ont trouvé à l'entrée de la grotte et pas vraiment dans la grotte. Ils ont décidé de faire des fouilles et c'est l'équipe de Ludovic Slimak, qui est un mec qui commence à être un peu connu, qui a écrit plusieurs livres et tout. Bon, qui est parfois un peu contesté parce que c'est un mec qui publie beaucoup et comme tous les scientifiques qui publient beaucoup, il faut le remettre en question. Mm-hmm. Mais c'est hyper intéressant parce qu'ils ont retrouvé donc, toute une dentition d'hommes de Néandertal et c'est assez rare d'avoir des fossiles dont on arrive à extraire l'ADN ancien. Et ils ont découvert plein de trucs. Déjà, ce qui est hyper novateur dans cette découverte, c'est la manière dont ils ont fait les fouilles. Parce que d'habitude, je ne sais pas si vous voyez comment on fait avec un petit pinceau, on frotte.
Oui, ça a l'air très long.
Ouais, c'est très très long. Alors, est-ce que tu peux imaginer une manière de faire plus long que ça?
Non,
un
peut-être.
Coton-tige.
En soufflant. Avec un tout
en
petit
soufflant.
Pinceau encore plus petit.
Un tout petit pinceau.
Avec un seul fibre de soie.
C'est ça. Un petit cheveu comme ça qui vient gratouiller le fossile.
C'est pire. C'est-à-dire qu'il était là, le moindre coup de pinceau pouvait bouger les ossements. Ils sont allés grain par grain à la pince à épiler.
Ah ouais.
Je te
ouais.
jure que bah du coup j'ai eu au téléphone Ludovic Slimak mardi et
il va bien psychologiquement.
Mais tu sais, le pire, c'est que je pense que c'est même pas lui qui fait vraiment. Enfin, je pense qu'il l'a fait un peu.
C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il l'a fait vraiment tout seul ou est-ce qu'il y avait une armée de bénévoles ou de gens payés pour le faire?
Ça, je lui ai pas demandé, mais je pense, quand tu vois les photos, ils sont plusieurs et tout. Donc, ils y vont grain par grain parce qu'ils sont peut-être devant un des fossiles les mieux conservés de Néandertal. Surtout que la grotte Mandrin, c'est aussi connu pour avoir des fossiles d'Homo sapiens. Donc, c'est quand même un lieu assez exceptionnel qui a croisé plusieurs civilisations dominées. Et donc ça, c'est quand même assez dingue quand tu dis que c'est les derniers Néandertaliens qui ont disparu il y a 40 000 ans environ. Et les premiers hommes dont on pense qu'ils sont arrivés en Europe, je sais pas, il y a moins 55 000 ans à peu près. Donc c'est quand même assez dingue. Et ils ont réussi à trouver, donc ils ont pour l'instant trouvé, même si les fouilles elles sont encore en cours, là ils ont publié leur analyse à partir de 31 dents et une partie de la mâchoire, etc. Et ils ont fait une extraction d'ADN. Et en fait, ce qui est assez dingue, c'est qu'ils ont fait toute leur petite analyse génomique. Alors, est-ce que quelqu'un a envie de se lancer sur l'explication de qu'est-ce qu'est la génomique? Sinon, je le fais. Hein.
Génomique.
Donc, effectivement, le génome.
Ouais, c'est, ouais. Ça, c'est à partir de l'ADN, en
c'est
fait.
À partir de l'ADN et on essaye de le comparer à des bases de données.
Ouais, exactement.
Pour pouvoir en savoir un peu plus sur l'espèce.
Sur, en fait, c'est qui es-tu? Qui es-tu ?
Exactement. Donne-moi ton génome et je te dirai qui tu es. Sauf que le J'adore. Souci, quand t'es un homme de Néandertal, c'est qu'on a quoi ? On a tout craqué 40 fossiles. Et là, pour l'étude, ils ont fait des comparaisons avec 25 échantillons pour l'ADN mitochondrial. Donc la mitochondrie, c'est un élément de votre cellule qui est transmis par la mère. Donc avec
qui donne l'énergie.
Oui, c'est
voilà,
vrai.
Pour aussi. Le faire sans, très très simplement.
C'est le principe, c'est un peu son rôle dans la cellule. Donc tu utilises l'ADN mitochondrial pour retracer l'histoire du côté de la mère. Et là, on avait entre guillemets de la chance parce que l'individu était un mâle. Et du coup, tu peux aussi avoir accès à l'histoire paternelle en regardant ce qui se passe du côté de l'ADN du chromosome Y. Et là, ils n'avaient que 8 individus. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de critiques sur ce genre d'analyse, c'est que c'est quand même fait sur un échantillon très restreint,
ouais.
Et en même temps, tu fais comme tu peux, quoi. Tu fais avec ce que t'as. Et ils ont... leur étude, elle est assez novatrice, parce qu'ils se sont rendus compte, quand ils ont fait leur première analyse ADN, que l'âge du fossile, les premières recherches ont donné un âge de moins 105 000 ans. Par les paléogénéticiens.
Et pour les personnes qui ne s'en rendent absolument pas compte, dont je ne fais absolument pas partie, hein, c'est... ça correspond à quoi à peu près d'un point de vue époque ?
Moins 105 000 ans. Point de vue époque, on est au... je crois que c'est encore le paléolithique, il me semble. Ouais. Si ça se trouve, j'ai de l'énorme merde.
Vérifiez chez vous.
Michel Drucker voilà. Venait de commencer.
Mais en gros, les Néandertals étaient encore là et vont encore vivre pendant un bon bout de temps. Les Néandertals, je crois que c'est moins 400 000 à moins 40 000. Je regarde Jocelyn en régie pour avoir une confirmation. Mais il m'a fait une mood, je ne sais pas.
Avec sa licence de physique, il sait évidemment.
Mais tu sais, je me suis dit peut-être l'ethnomusicologie, tu fais un peu d'archéo. Non, je sais pas. Mais dans ce qui était surprenant, c'est qu'ils ont eu moins 105 000 ans pour les paléogénéticiens et les archéologues, et ceux qui ont regardé les strates de roches qui sont hyper bien datées dans la grotte Mandrin, parce que c'est un site où on a mis des sous, ils étaient là, bah, c'est impossible. Parce que nous, clairement, on estime entre moins 40 000 et moins 50 000 max.
Donc il a vécu 60 000 ans, c'est tout.
Enfin, ouais, c'est ça. Ils se sont mis et c'est la fin de l'étude. Merci à tous.
Des belles conclusions.
C'est non. Un homme qui a vécu 60 000 ans, ça fait un très beau titre d'article, ça.
Mais donc, en fait, moi, ce qui m'a un peu interrogée quand j'ai lu cette étude, c'est que j'étais là, ok, ils ont fait la découverte en 2015, mais on n'en a pas vraiment beaucoup parlé. Et là, on est en 2024, on est presque 9 ans après, alors que comment ça se fait qu'ils aient mis autant de temps? Et ça, c'est une des clés qui permet de comprendre pourquoi on a mis autant de temps à comprendre ça. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils étaient biaisés dans leur analyse parce que l'individu, bon ça c'est l'hypothèse, hein, l'individu, il serait issu d'une lignée néandertalienne qui aurait divergé des autres néandertaliens il y a moins 105 000 ans.
Okay.
Et sauf que comme c'était une petite population, un petit groupe, et ben, c'est une population qui est restée entre elles, qui est restée isolée pendant 50 000 ans. Et donc, il y a eu beaucoup d'endogamie, donc beaucoup de gens qui se reproduisent entre eux, même s'ils sont...
un petit peu de consanguinité.
Ça se faisait à une époque.
Et cette très forte consanguinité, elle a biaisé l'étude parce qu'on se retrouvait avec des données d'ADN qui en fait étaient les mêmes qu'il y a 105 000 ans, mais qui en fait ne correspondaient pas à ce que donnaient les données d'archéologie. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et surtout qu'il y a une autre histoire qui se rajoute à ça, c'est qu'ils ont aussi fait des datations au carbone 14 et tout. Et les premiers résultats de la datation, c'était... Alors, ouais, non, c'est moins de 33 000 ans. Sachant que moins de 33 000 ans, il n'y avait pas de roche. Donc il était en mode, donc ça veut dire que le fossile est dans le ciel, c'est ça? Et donc c'est assez ouf.
La roche s'est construite autour du fossile.
Voilà, c'est-à-dire qu'il était en train de léviter. Et donc je trouve ça hyper intéressant, ces cas de grosses contradictions et de débats entre chercheurs de différentes disciplines. Ouais. Mais ouais, et en même temps c'est assez courant. Et en fait ce que disait le chercheur, c'est que ça remet en question beaucoup d'autres données de fossiles, où si ça se trouve, comme on n'avait pas leur domaine archéostratigraphique, comme on n'avait pas le contexte dans lequel ils avaient été prélevés, parce que c'est des très vieilles fouilles, et bien si ça se trouve, l'âge qu'on leur a attribué par la génétique, il est complètement fou.
Ah oui.
Et donc ça remet en question plein plein de choses. Donc déjà, ce qui est ouf, c'est que c'est un fossile qui est retrouvé en France. On a son ADN, il vient d'une population qui aurait été isolée pendant 50 millénaires, assez dingue, d'une toute petite population hyper consanguine. Et il y a plein d'autres choses à savoir. Et pour ça, il y a plein d'articles qui sont chouettes. Il y a un article du Monde. Moi, j'ai un article qui va sortir bientôt.
Ouais, lisez la recherche.
Ah, mais tout ça, c'était une auto-promo depuis le début. Mais tu nous as bien lu.
Et lisez mon livre également.
article d'Alice Carliez à retrouver à la recherche. On note. Bon, maintenant, il est temps de faire une petite pause musicale. C'était hyper intéressant. Et après avoir parlé génétique, on vous propose Genetic World de Télépop Musique sur les recommandations de notre très chère Alice. Il s'est présente.
C'est bien fait.
There is no gene of faith, and when for one reason or another we attempted to change these hard times, our own genetic identity became our only true ally. Finally survive.
Vous avez la virgule, vous, d'ailleurs ?
Happy Hour scientifique sur Radio Campus Paris.
On est de retour sur l'Happy Hour scientifique avec notre folle équipe composée de Alice, Marion, Sacha, Tom, PY, Jocelyn et moi-même, c'est-à-dire Chiara. Et maintenant, c'est l'heure de nouvelles gorgées de science avec Marion.
Est-ce que tu m'offrirais une gorgée de cet excellent breuvage pour rincer tout ça ?
Eh ben moi, il y a un truc que j'aime bien et que j'ai déjà fait plusieurs fois dans l'Happy Hour, c'est parler des Ig Nobel. Alors, j'imagine que vous savez déjà ce que c'est. On parle de ce prix satirique qui récompense des sujets de recherche bien barrés. Et donc cette année, la cérémonie s'est tenue au MIT le 12 septembre et laissez-moi vous dire qu'il y avait du lourd et que j'avais l'embarras du choix pour discuter de ça avec vous. C'est simple, sur la page Wikipédia, tous les titres, ou presque, vendent du rêve. Alors déjà, on a en anatomie, on a une équipe de recherche franco-chilienne qui a découvert qu'il y a plus de gens qui naissent avec des cheveux implantés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre que dans l'hémisphère sud. Enfin, dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud.
Attends, répète-moi cette info.
Ouais, parce qu'en plus, j'ai bugué. En gros, il y a une équipe qui a démontré que l'implantation des cheveux se faisait plus dans le sens... Attends, anti-horaire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord.
Ok.
Donc ça, c'est déjà une belle info.
C'est hyper important, ça va. Ouais.
Et on pourrait se contenter de cette info, mais j'ai quand même investigué en découvrant au passage tout un tas de trucs passionnants sur la théorie autour de l'implantation des cheveux. Genre, est-ce que vous avez déjà entendu parler du théorème de la boule chevelue ?
Non, est-ce qu'il faut qu'on fasse des devinettes ?
C'est vraiment pas obligé, hein. Parce que
la boule chevelue, moi j'ai que mon chat qui me vient
non,
en tête.
Non, parce que moi j'ai la boule de Fort Boyard, mais il n'a pas de cheveux.
Ah, c'est vrai qu'il est très
caché. Et il est décédé, malheureusement.
Oh, pas malheureusement, je crois vraiment qu'il était hyper limite.
Ah ouais ? Bon.
Et ben, vous aviez exactement autant d'informations que moi, c'est des maths, de la topologie ou je sais pas quoi. En gros, je vais vous faire le résumé. Il faut imaginer une boule avec des vecteurs à sa surface. Donc là, on se souvient tous de nos cours de quatrième et ça nous fait très plaisir. Et donc en fait, tous les vecteurs sont implantés dans la même direction sur cette boule, de manière un peu tangente. Donc encore les fameux cours de maths. Donc chaque vecteur est vu comme un cheveu dans cette théorie. Et le théorème stipule que la boule chevelue... stipule, je cite Wikipédia, que la fonction associant à chaque point de la sphère le vecteur admet au moins un point de discontinuité, ce qui revient à dire que la coiffure contient un épi ou qu'il y a des cheveux nuls, c'est-à-dire de la calvitie.
Voilà. Ah,
et donc moi je trouve ça absolument fascinant, même si j'avoue que j'ai pas tout compris. Et donc pendant mes élucubrations wikipédiennes, j'ai également appris la traduction du mot épi en anglais. Est-ce que quelqu'un sait comment on dit épi en anglais ?
Épi, c'est spécifiquement pour les cheveux ou ça peut être même épi de blé ?
Happy.
C'est une belle tentative, mais non. C'est cow-leak, donc littéralement l'échure de vache. Et donc quelque chose de tout à fait fascinant.
En même temps, c'est vrai que
c'est bien imagé.
Bah ouais, c'est très imagé.
Tu sens le gel de vache sur tes cheveux, là, le truc bien baveux. Et donc, j'ai encore appris des choses. J'ai aussi appris qu'il y a des gens qui ont une double implantation de cheveux, quoi que ça veuille dire. Hein. C'est vraiment juste ma formulation.
Dans le sens horaire ou anti-horaire ?
Eh bah, ben, ça dépend justement. Des fois, tu peux avoir des implantations horaires et anti-horaires en même temps. Et donc, ça fait qu'ils ont genre deux spirales sur la tête, genre là et là, tu vois. Donc ça, c'est assez incroyable, fascinant, encore une fois. Donc pour en revenir à l'étude, nos chercheuses ont voulu savoir si les facteurs extérieurs, et donc non pas génétiques, pouvaient avoir une influence sur le sens d'implantation des cheveux. Une question tout à fait légitime à se poser, en fait, j'ai envie de vous dire.
Et tout le monde se pose la question, ça c'est
clair. Et donc ils ont bien compté à Santiago du Chili et à Paris combien d'enfants naissaient avec des cheveux dans le sens des aiguilles d'une montre et combien dans le sens inverse. Donc 50 enfants nés en mars 2021 et 74 jumeaux, c'est-à-dire 37 paires d'enfants. Ils ont découvert que chez les jumeaux, les sens tendaient statistiquement plus souvent à être dans le même sens pour les deux enfants de la paire d'enfants. Et comme je le disais, ils ont trouvé que dans l'hémisphère sud, il y avait significativement plus d'enfants nés avec les cheveux implantés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Est-ce que c'est
alors
ça,
évidemment, le souci, c'est que l'étude contient une limite flagrante, c'est qu'on ne sait pas si c'est dû à un effet d'échantillon sur la population ou si c'est vraiment la localisation qui cause ça.
Je crois que je vais te faire la super blague de PY que t'as pas entendu.
Ah, parce que c'est vraiment
est-ce
marrant.
Est-ce que c'est ça, l'épigénétique ?
Mais c'est merveilleux. Mais c'est merveilleux comme blague.
Et il faut
je suis désolée
casque.
De pas avoir entendu ça. Je vais remettre mon casque tout de suite au cas où il y a encore des pépites comme ça.
Et aussi, j'ai un truc à dire, c'est que la dernière fois que je suis allée chez la coiffeuse, elle m'a dit que... Alors,
info coiffeuse. Hein. Donc on n'est pas sur une scientifique, voilà, mais je pense qu'elle s'y connaît quand même un peu.
Elle connaît la théorie de boule.
Bah,
de
écoute,
la boule
écoute, ça se trouve, elle a fait toute une thèse sur les épis de cheveux, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, ce qu'elle m'a dit, c'est que ça, c'était carrément génétique l'implantation des cheveux sur la tête et que ça venait plutôt de la mère. Alors, info à vérifier.
Bah, il paraît que la calvitie, ça vient aussi plutôt de des mères aussi.
Donc ça voudrait dire que globalement,
c'est pas les mères mitochondriales. Exactement, l'ADN mitochondrial encore lu. Et donc du coup, pour en revenir à l'étude, le souci c'est qu'elle a une limite flagrante, c'est qu'on sait pas en fait si c'est dû à un effet d'échantillon, genre si la population sur place elle a plutôt des tendances à être comme ci comme ça, ou si c'est vraiment la localisation, donc hémisphère sud ou nord, qui cause ça. Donc les chercheurs appellent de tous leurs vœux, et je le dis avec gravité, si les auditeuristes se sentent appelés par ce sujet, vraiment allez-y, le monde de la science vous en supplie. Donc les chercheurs appellent de leurs vœux le lancement de nouvelles études sur le sujet pour potentiellement confirmer l'hypothèse que tout ceci ne soit pas déterminé génétiquement, et c'est très très important. Affaire à suivre donc, surtout que moi, des questions là-dessus, j'en ai plein, ça m'obsède. Donc par exemple, si une femme fait des allers-retours hémisphère nord-sud pendant toute sa grossesse, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'enfant aura juste des cheveux en brosse ou alors complètement dressés sur sa tête? Si une femme enceinte reste rigoureusement sur la ligne de l'équateur, est-ce que son bébé sera chauve? Moi, je veux des réponses.
Bon, je pose la question.
Voilà. Mais moi, je pense que là, je vais reprendre des vacances parce que ce sujet m'a vraiment beaucoup trop épuisée. Donc, on va finir avec un petit sujet comme ça, rapide. On balance vite fait. Il y a un mec qui s'appelle Saul Newman, et non pas Saul Goodman, qui a remarqué que beaucoup d'affirmations concernant l'existence de zones très denses en supercentenaire, c'est-à-dire des vieux de plus de 110 ans, sont en fait des régions où la durée de vie est courte, où il n'y a pas d'acte de naissance et où les fraudes à la retraite sont fréquentes. Donc, pour aller dans le vif, seulement 18% des supercentenaires avaient un certificat de naissance, et aux États-Unis, ce nombre tombe tout simplement à zéro. Donc ça veut quand même dire qu'il y a des chercheuses qui se demandent depuis des années quel était le secret de ces communautés pour avoir des vieux aussi vieux, donc régime miracle, gros réseau d'amis, est-ce qu'il fait du jardinage tous les jours, est-ce qu'il a déjà pratiqué la Zumba, et encore plein d'autres hypothèses potentielles. Et en fait, c'est peut-être juste qu'ils mentent depuis le début, et je trouve ça génial, les vieux nous surprendront toujours. Alors maintenant, vieux, je n'ai qu'une chose à dire, attention à toi Jeanne Calment, on va investiguer, on se doute bien de ta petite machination. Bon, elle peut pas vraiment m'entendre là, mais attention quand même. Bon, sinon vraiment, je vous invite à aller investiguer les autres prix parce que c'est magnifique. On trie des vers bourrés par chromatographie, on fait respirer des cochons par le cul. Ah, on me dit de faire attention parce que peut-être que ça spoil une autre partie de l'émission et qu'on n'a plus le temps. Ok.
Mais c'était super.
Moi, je m'arrête comme ça.
Toute la partie capillaire était extrêmement passionnante.
Mais j'ai beaucoup investigué.
Bah, je vois ça. Mais merci à tout le monde pour cette discussion. Et maintenant, je vous propose un jeu également sur bah, le même sujet, qui sont les IG Nobel.
Ah, voilà.
Et donc, plus, c'est l'heure du Caps ou pas Caps.
Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous prenez pour un imbécile.
Donc, pour ce Caps ou pas Caps, je vous propose de rester sur le même sujet, mais cette fois-ci un peu plus sous forme de jeu. Donc voilà, on va apprendre encore un peu plus sur les IG Nobel de cette année.
Mais elle va tout gagner, Marion.
Ouais, c'est ça, je me suis spoilé l'intégralité.
Ouais, là, clairement. Donc,
elle n'a pas le droit de jouer.
Pour rappel, pour les internautes qui viennent juste d'arriver, donc les IG Nobel, c'est la parodie des prix Nobel, donc comme Marion nous a dit juste avant, donc des recherches scientifiques complètement loufoques, et d'ailleurs le mot d'ordre de l'organisateur, c'est, pour recevoir un IG Nobel, c'est une recherche scientifique qui nous fait d'abord rire, puis réfléchir. Donc il y a quand même un peu un côté réflexion sur la vie, est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est pas
et
utile.
Et est-ce que la boule chevelue, elle est capillotractée?
Et
voilà.
Et l'épigénétique, qu'est-ce que c'est vraiment, en fait, si voilà, on prend d'un point de vue étymologie, c'est clair. Et donc, les derniers IG Nobel, ils sont hyper récents, parce que ça s'est tenu le 12 septembre dernier. Et là, maintenant, je vous propose un petit jeu où on va deviner des parties des résultats complètement loufoques. Donc voilà, donc les derniers IG Nobel restants, hormis ceux dont Marion a déjà parlé. Donc, premier sujet, la catégorie probabilité. Car effectivement, il y a une catégorie probabilité. Mm-hmm. Et là, vous vous dites,
Moi j'ai une licence de maths, hein, donc j'adore les stats. Je suis on fire.
Et comment, ah ouais. Comment faire un quiz sur de la proba? Et est-ce que ça peut être marrant? Moi je pense que oui.
Probablement pas.
Oh, bravo, bravo.
Pas mal, pas mal.
Mais ça va fort ce soir sur les flingues, c'est génial.
Et donc concernant les probabilités, et je pense qu'il y a des gens qui ont encore plus de temps à perdre que nous, c'est sûr et certain, parce qu'il y a quand même une équipe de 50 chercheurs qui viennent principalement des Pays-Bas, qui ont confirmé la théorie selon laquelle une pièce de monnaie lancée en l'air a plus de chances d'atterrir du côté où, d'où elle est partie. Et donc pour cela, ils ont lancé la pièce et ils ont noté de quel côté ça tombait à chaque fois. Vous me direz, une recherche tout à fait passionnante.
Ils étaient 50.
Ils étaient 50.
Ils étaient 50.
Moi, j'imagine les 50 autour de la pièce. Oh,
ouais, c'est dans ses faces.
C'est tous les grains à la pince à épiler, c'est les mêmes.
Exactement.
C'est ce qu'ils font au bar le soir pour se détendre.
Ils se demandent pourquoi c'est des asociaux, mais ils sont juste fous.
Ils sont 50 avec des pièces de monnaie à se poser des questions existentielles. Moi, je trouve ça fou. Mais du coup, d'un point de vue statistique, ils ont pu établir le fait que ça retombait plutôt du côté d'où ils le lancer. Donc ma question maintenant, c'est à votre avis, combien de lancers nécessaires pour arriver à une ébauche de statistiques? Plutôt 12, plutôt 5866 ou plutôt 350757?
S'ils sont 50, 357857, je pense.
Alors, c'est pas exactement ça le nombre que j'ai dit.
Moi, j'aurais dit celui du milieu.
Ah ouais ?
357.
Dans les 300 000. Là,
ah non, mais le temps que ça prend.
Bah, 50 chercheurs pendant 5 deux ans.
5658 ou 12. Pourquoi pas 12 ?
Bah, c'est quand même très très peu. Hein. Si j'arrive à avoir 25 néandertaliens pour faire une analyse statistique du génome, je pense que pour la pièce, tu peux te permettre de faire un peu plus.
C'est clair. Après, on parle d'IG Nobel, tu vois.
Ouais. Ouais, mais bon, après, c'est des statisticiens. Et puis, ils ont quand même fait des
mais
études.
Mais tu peux publier un truc avec 12 lancers.
C'est la bonne recherche.
Le sujet. Qualitative. Je suis pas sûr.
C'est bien
ça
fait.
Ça passe pas la relecture, hein, par contre.
Bon, on veut savoir maintenant.
Moi je sais, moi je
sais. Le peuple veut savoir.
Elle sait, elle sait. Elle
moi je sais, moi je peux dire, je peux dire.
Allez.
Est-ce que c'est moi qui me fais kiffer à le dire? Non, vas-y, c'est
vas-y,
toi.
Vas-y, non, tu peux te faire kiffer.
Fonce, fonce, Marie.
C'est le plus gros chiffre, 350 000.
Précisément, je veux le chiffre.
Ah non, merde, non,
857
pas, purée,
mais
le
moi
sujet
j'ai pas écrit sur ma feuille.
357 850.
350 757 lancés pour 50 personnes. Donc en combien de temps? Je ne sais pas exactement. Je pense qu'il faudrait faire quelques calculs en plus.
Si ça avait été 56, ça aurait pas marché.
Ouais,
non,
rien à voir.
Exactement. Et ils ont été quand même une cinquantaine de zigotos à participer à ce projet scientifique qui est quand même extrêmement élaboré. C'est-à-dire qu'on parle vraiment de 50 personnes dans une salle à lancer des pièces et à noter au tableau si oui ou non ça retombe du même côté. Moi, je trouve ça assez fou. Je trouve que l'espèce humaine est quand même très intéressante à étudier.
Beaucoup de... Ils se la donnent beaucoup pour un simple pile ou face, finalement.
Exactement.
C'est pas les Néandertaliens qui auraient fait ça.
Nouvelle catégorie, biologie. Tu disais que c'était ta science préférée, Alice, donc pourquoi pas. Ça concerne des vaches. Cette fois-ci. Je sais pas si tu l'as mentionné, Marion, juste avant.
Je l'ai pas mentionné, Cow-lick. Mais j'ai tout lu.
Cow-lick. C'est vrai. Cow-lick. C'est vrai. Mais là, cette fois-ci, c'est vraiment sur les vaches. Est-ce que vous avez des idées de recherche un peu loufoque sur des vaches? Est-ce que déjà, ça vous...
Le
ça...
prout des vaches.
Et c'est pas sur les proutes. Sur les ça proutes. Pourrait, mais non.
Sur leur beuglement.
Non. Non. Mais sur c'est une bonne pie. Idée. Ça se rapproche. On se rapproche.
Il y a un truc laiteux, il y a un truc.
Il y a effectivement un truc laiteux.
Est-ce que oui ou non on peut obtenir du camembert si on ne traite jamais sa vache et que on la laisse
le camembert s'auto-forme dans les.
Est-ce que le lait caillé peut se créer directement? Non, c'est pas ça. C'est Fordis Eli et William Petersen. Je suis vraiment désolée si vous nous écoutez et que j'ai pas
je
bien
pas.
Dit votre nom, mais je ne pense pas non plus.
Je pense que personne n'est au courant, pour être honnête.
Pour avoir découvert qu'en plaçant un chat sur le dos des vaches. Et en faisant exploser des sacs en papier toutes les 10 secondes, précisément, pendant 2 minutes, celles-ci produisaient moins de lait.
Et ben, ouais.
C'est quand même des conditions hyper précises.
Ouais,
c'est des conditions extrêmement
précises. Ce
qui
arrive beaucoup dans les élevages
en
permaculture.
Temps, moi, ce que je veux savoir, c'est qui s'est dit on va faire cette hypothèse de base. Genre, qui s'est dit... En fait, moi, ce matin, je suis allée chercher des chouquettes. Tu vois, j'avais le sac comme papier. Et puis, il y a le chat, il est monté. Et moi, j'aime bien que j'ai fini les chouquettes. Je souffle dans le sac comme papier. Et puis, paf. Et là, la vache, elle a plus pété. Alors, je me suis dit, il va faire une recherche scientifique. Qui s'est dit, je vais faire ce type.
Mais surtout, moi, ce qui me choque, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que les conditions, elles ont aucun sens à, par rapport au sac en papier et aux vaches. Et qu'en fait, c'est juste des conditions de stress. Et qu'effectivement, en conditions de stress, elles produisent moins de lait, tu vois. Mais si tu leur cries dans les oreilles et qu'il n'y a aucune histoire de chat en papier toutes les 10 secondes de lait, elles produisent moins de lait.
C'est juste du stress, quoi.
C'est juste du stress. Et du
coup, extrêmement spécifique.
Mais c'est extrêmement spécifique. Et j'imagine qu'il y a des data très précises.
Mais ça fait pas réfléchir.
Bah moi je trouve que ça fait un peu réfléchir.
Ça peut faire réfléchir sur les conditions d'attribution des IG Nobel, oui, voilà, en tout cas.
Sur les financements de la recherche.
Mais moi quand j'ai eu l'idée de faire la chronique sur les IG Nobel, j'ai vraiment eu quelqu'un qui m'a dit mais c'est loufoque comment, parce que les recherches, parce que genre est-ce que c'est juste des gens qui gaspillent de l'argent du contribuable ou est-ce que ça a vraiment un intérêt? Donc pour cette étude je sais pas quoi dire.
Sur cette étude j'avoue je crois que ça a pas trop d'intérêt. Après il y en a une autre qui a un peu d'intérêt, là pour le coup je vous le fais pas version blague, je le fais un peu vite, faut un peu qu'on se dépêche, mais il y a quand même des chercheurs d'ailleurs encore français, hein, parce qu'il y en a pas mal des français qui ont fait des trucs un peu débiles, et ils ont en fait utilisé la technique de la chromatographie, donc en gros c'est une technique qui permet de séparer les éléments que tu mets dans ta chromatographie, en très très simplifié, et souvent ça passe par une phase liquide, et ils ont mis des verres bourrés, des verres de terre bourrés, et des verres de terre sobres, et je cite, c'est un peu comme si on faisait faire du rafting au verre bourré et au verre sobre en faisant couler de l'eau à l'intérieur de la chromatographie. Et c'est comme un labyrinthe sur une planche d'un mètre de long constellé d'obstacles. Donc concrètement, ils ont juste fait une course de verre de terre. Et à votre avis, lesquels sont arrivés en premier, les verres bourrés ou les verres sobres?
Moi, j'ai envie de croire en la team bourrée.
Parce que sinon, ils ont moins peur et ils n'auraient pas été primés.
Pas la bonne réponse.
Oh.
Les verres bourrés sont effectivement arrivés en dernier, car je cite les chercheurs, un peu comme quand vous vous agrippez au lampadaire quand vous sortez du bar, ils se sont accrochés aux obstacles du labyrinthe.
La recherche. Après, on se demande pourquoi le ministère de la Recherche donne pas de sous. Mais c'est normal.
Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, ça a vraiment été utilisé sur la recherche sur la science des polymères, parce que la technique de chromatographie, c'est celle qui sont en train d'étudier au même moment.
Et des taches vertes, c'est des taches de verre.
Exactement. Ah. Et du coup, voilà. Et donc, voilà.
Mais la citation, elle était vraiment dans l'étude.
Non, mais la citation est folle.
La citation a été, je donne les crédits, la citation a été recueillie par Sud-Ouest auprès des chercheurs eux-mêmes qui viennent de l'université de Bordeaux. Merci d'avoir participé à mon jeu. C'était bien marrant. Et maintenant, je vous propose une nouvelle pause musicale avec When It All Falls Down de Célassou. Un peu comme les vers de terre qui tombent dans la chromatographie, j'ai envie de dire.
Qu'est-ce qu'elle a forte.
Happy Hour scientifique sur Radio Campus Paris.
Vous écoutez l'Happy Hour scientifique et nous sommes de retour pour continuer à vous parler de nos coups de cœur en science cette année. Et maintenant, c'est à Sacha de nous parler de potentiels effets thérapeutiques des drogues psychédéliques.
Oui. Alors, est-ce que vous savez d'où vient le terme psychédélique, déjà ? Petite question.
Psyché, intellect...
C'est une déesse grecque, non ?
Alors, il y a du grec, il y a du grec. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Le terme a été forgé en 1956... 56, donc c'est assez récent.
Persongétorix,
c'est
pardon.
Ça. Par le psychiatre Humphrey Osmond dans un échange de lettres avec Aldous Huxley, qui est l'écrivain anglais du meilleur des mondes. Alors que tous les deux cherchaient comment désigner les substances dont ils découvraient les effets sur la connaissance du psychisme, Huxley proposa un néologisme dans un échange poétique. À la fin des lettres, on peut lire les vers suivants.
To make this trivial world sublime, take a half a gram of funeral time.
Pour rendre ce monde trivial sublime, prenez un demi-gramme de phanérotime.
C'est beau.
Phanérotime étant formé des mots grecs, justement, anciens, le verbe phanéroïne et le nom timos, pardon les grecs, qu'on peut traduire par qui rend l'âme visible, manifeste.
Mais non.
Et si. Ce à quoi le psychiatre Osmond répliqua par
To fathom hell and so angelic, just take a pinch of psychedelic.
Pour comprendre l'enfer ou surgir angélique, prenez juste une pincée de psychédélique. Désignant sensiblement la même chose qui rend l'âme visible, c'est ce deuxième néologisme psychédélique qui restera. Si vous voulez en savoir un peu plus sur leur vision des choses, je vous conseille la lecture des Portes de la perception de Aldous Huxley, un récit d'une précise description sur les effets d'un long trip à la mescaline. Bon, trêve d'étymologie et de divagation, parlons de la chose maintenant. Les psychédéliques sont une famille de psychotropes, qui donc, par définition, modifient l'activité psychique. On y retrouve le LSD, la psilocybine, issue des champignons magiques, la mescaline, issue de peyote, un cactus sud-américain, ou encore la DMT, qui est la molécule qui donne effet au célèbre mélange ayahuasca.
Mais pourquoi parler de tout ça alors que la saison des festivals touche à sa fin ? Il y a une actualité avec tout ça ou...
Eh ben oui. En fait, c'est parce que ces molécules psychédéliques font leur grand retour dans le domaine de la psychiatrie. Depuis déjà quelques années dans le monde anglo-saxon, ainsi qu'en Suisse, et depuis cette année en France, mais nous y reviendrons.
Mais d'abord, dis-nous, pour quel domaine psychiatrique ces molécules elles sont étudiées ?
Eh bien, pour divers troubles mentaux qui sont à l'étude, notamment la dépression sévère et résistante au traitement, les addictions, notamment à l'alcool et aux opiacés, ou encore l'anxiété liée à la fin de vie. C'est là toute une révolution qui pourrait émerger en psychiatrie, et enfin sortir de l'ombre, enfin plutôt ressortir. Car l'histoire de ces molécules est entachée d'idées reçues, de panique morale, de désaccords politiques. Les molécules psychotropes font partie de la recherche scientifique du XXe siècle dès les années 30, aux États-Unis, mais en France aussi. Et tout est très bien documenté par notamment une historienne qui s'appelle Zoé Dubus, qui est même historienne des psychotropes. Donc un métier qui est beaucoup trop stylé. Exactement, donc je vous invite vraiment à lire les travaux pour plus de détails. Mais puis tout se stoppe. Parce que tous les travaux s'arrêtent à la suite de l'inscription du LSD dans la Convention de Vienne sur les substances psychotropes en 1971, ce qui mènera à son interdiction au niveau mondial, et toutes les autres molécules auront la même sentence. Ce qui sonne le glas de la recherche pour percer les mystères cachés derrière la porte de la perception. Accusés de rendre les jeunes fous, rebelles, désobéissants, prise de position contre la guerre du Vietnam, contre le capitalisme néolibéral... montant.
Quelle injure!
Les psychédéliques sont surtout le bouc émissaire servant à éloigner une espèce de contre-culture non alignée aux idées dominantes.
Mais du coup, l'interdiction, c'est pas pour des raisons scientifiques. Et justement, la science d'aujourd'hui, elle en dit quoi de ces produits ?
Eh bien, aujourd'hui, on découvre des choses assez fascinantes. L'effet principal de ces molécules se fait via l'activation des récepteurs à la sérotonine. Une molécule qui sert de messager entre deux neurones au niveau d'une zone qu'on appelle les synapses. Souvent appelées hormones du bonheur, parfois de la motivation, ces appellations grand public sont assez fallacieuses car le rôle de la sérotonine dépend surtout de la zone dans laquelle elle agit. Et les récepteurs à la sérotonine sont assez répandus dans l'organisme, on en trouve même dans les neurones de l'intestin. Pour en revenir aux psychédéliques, les dernières études publiées sur le sujet montrent qu'ils agissent comme des courts-circuits. Je m'explique. De nombreux troubles psychiques, comme la dépression, se caractérisent par des ruminations, des pensées, des comportements qui tournent en boucle. Au niveau neuronal, c'est comme un réseau qui serait bloqué, une route que le cerveau emprunte indéfiniment sans pouvoir en sortir. Le LSD ou la psilocybine vont venir perturber ce circuit, créer de nouvelles routes possibles, et au final entraîner un genre de reboot de l'itinéraire cérébral. Ce que l'on peut voir en utilisant des IRM fonctionnels sur des patients avant, pendant et après la prise de psychédéliques. Bien sûr, c'est pas la panacée, les bad trips existent, et des doses trop importantes restent dangereuses pour les non-expérimentés surtout. L'utilisation clinique se fait donc majoritairement en set and sitting, ou en français thérapie assistée par psychédélique, où un professionnel de santé accompagne systématiquement les patients lors de leur voyage intérieur et échange avec eux, s'ils le souhaitent, sur leurs émotions ressenties lors de ces séances de psy augmentées. Aujourd'hui, les pays ayant autorisé certains psychotropes ou en bonne voie de le faire pour traiter des troubles mentaux augmentent, comme l'Australie, qui a légiféré l'année dernière sur la MDMA, composée de l'ecstasy, et la psilocybine, en autorisant ces traitements dans la dépression et les troubles de stress post-traumatique.
Et quid de la France alors ?
Eh bien, en France, au CHU de Nîmes, un essai testant la psilocybine contre l'addiction à l'alcool a démarré en février dernier. Et au GHU de Paris, un autre utilisant aussi la psilocybine va démarrer dans le cadre de dépression résistante au traitement classique. Personnellement, il me hâte de ce qui adviendra de ces essais cliniques.
Oh, sans doute.
Alors, le renouveau psychédélique va-t-il changer la donne de la psychiatrie et pourquoi pas entraîner à nouveau une contre-culture ? Discutons-en maintenant.
Pendant cette minute qui reste. Ah oui. Même pas, c'est 10 secondes qui restent.
Ça me fait penser aux électrochocs. C'était plus ou moins le même principe. L'idée, c'est un électrochoc chimique, en fait.
Allez, drogue et électrochoc. Super.
Il y avait une idée un peu de choc comme ça par le psychédélique. Mais là, il y a quand même cette idée d'assistance. Et plus... J'ai l'impression que c'est quand même moins violent que l'électrochoc qui avait l'air d'être moins
pas le contraire, mais j'ai l'impression que, alors je dis ça, c'est une question, hein, mais que c'est un peu le même principe en fait, ou alors dans l'esprit c'est censé être le même principe, peut-être que là ça marche beaucoup mieux, je sais pas, mais je sais qu'encore aujourd'hui on utilise des électrochocs intensité moindre, mais ça existe encore.
Ça existe encore, notamment aussi pour la dépression.
Efficace vraiment quand vraiment les gens sont pas du tout réceptifs à toutes les autres formes de traitement. Je crois que j'avais entendu que c'était autour de 75% de réussite. Vraiment, alors qu'il y a des gens qui étaient enfermés dans la dépression très très sévère, quoi.
Ok.
Donc électrochoc, apparemment.
Ouais, il y a un peu. Ouais, moi j'ai bien aimé cette idée de reboot que j'ai lu.
Ouais, je trouvais que c'était très bien expliqué, comment tu l'as dit. En fait, ce truc de spirale qui s'arrête pas et de trouver un nouveau chemin.
Ouais, un mode sans échec, en fait.
Ouais.
Je me permets de rappeler aux auditeurs que tout cela est dans le cadre du médical et que tenter d'électrocuter d'autres personnes ou alors de prendre des doses intenses de LSD n'est pas recommandé pour la santé.
Et illégal.
C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est quand même des séances qui sont hyper encadrées et du coup... J'aime bien aussi l'expression séance de psy augmentée. Tu vois, genre, dire que t'es entouré de personnes bienveillantes et qui savent ce qu'elles font.
C'est ça, il y en a même qui sont mêlées avec des pratiques artistiques en même temps et ce qui a l'air de vraiment fonctionner. Enfin, en fait, plus tu combines des choses comme ça,
manières,
nouvelles manières d'exprimer ses émotions.
Tu vois, à l'inverse, moi je trouve qu'il y a d'autres choses qui paraissent naturelles mais qui en fait peuvent être très dangereuses dans des régimes extrêmes par exemple. Et ça, c'est pas interdit. Et du coup, plein de contradictions qui existent dans notre société.
C'est clair, il y a
genre l'alcool.
Voilà, exactement. À la Happy Hour.
D'ailleurs, on en a parlé dans l'émission d'août.
Et ben merci de nous avoir partagé ce sujet un peu fou. Ça nous a donné envie d'une pause musicale un peu folle, un peu dans le sujet drogue, tout ça. On écoute
les Doors avec Peace Frog. Chicago. Feet flat on the rise, it's following me.
L'Happy Hour scientifique sur Radio Campus Paris.
Nous sommes de retour sur l'Happy Hour scientifique et cette fois-ci, c'est Tom qui va nous parler d'une étude qui l'a préoccupé. Il semble que Tom, t'es pollué de l'intérieur.
Et oui, Chiara, mon corps est pollué tout comme le tien et a priori ceux de nos auditeurs et auditrices. Je ne sais pas bien si c'est le terme approprié, mais c'est le sentiment que m'a donné une étude parue cette semaine. Elle a fait l'objet d'un article scientifique publié dans le Journal Exposure Science and Environmental Epidemiology. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé.
C'est magnifiquement prononcé.
Elle montre que parmi les 14 000 substances chimiques qui entrent en contact avec nos aliments, c'est-à-dire des parties infimes d'emballage mais aussi d'ustensiles de cuisine, 3601 se retrouvent dans notre corps.
Oh là.
Donc pour arriver à ce chiffre, les chercheurs ont épluché les données disponibles de programmes de biosurveillance et des bases de données sur l'exposome et le métabolome, c'est-à-dire les substances auxquelles on est soumis au cours de notre vie et l'ensemble des métabolites présentes dans le corps. Ces informations sont tirées d'échantillons biologiques comme le sang, l'urine, le sérum, la peau ou encore le plasma et sur plusieurs continents. Donc le monde qui a relayé l'étude nous explique que cette étude a permis de trouver deux fois plus de ces produits de ce qu'on estimait jusque-là. Est-ce qu'avant ça, j'avais à l'esprit qu'il y avait potentiellement 1500 FCCs, Food Contact Chemicals, dans mon corps? Pas tout à fait. Et en fait, c'est le double.
1600
1500.
Non, mais du coup, c'est 1500 et donc
c'est
le double. Donc,
c'est 3000. Le double. Ouais, c'est ça, 3601. Wow. Bon, je sais qu'il ne faut pas regarder que la quantité, mais aussi la qualité, ou plutôt la dangerosité de ces substances. Et ce qu'il y a de traître, c'est que parmi ces substances chimiques, on en trouve qui sont considérées comme extrêmement préoccupantes, entre guillemets, parce que potentiellement cancérigènes, mutagènes, ou encore reprotoxiques, il s'agit pêle-mêle de phtalates, de métaux lourds, de composés organiques volatiles, et bien sûr de PFAS et de bisphénol A. Alors, deux exemples que je vais un peu expliciter. Les PFAS, c'est des polluants dits éternels. Et aujourd'hui même, la cellule d'investigation de Radio France nous apprend que ces journalistes en ont trouvé dans 43% des prélèvements effectués dans 44 communes. Dans 3 d'entre elles, le taux est supérieur à la norme réglementaire. Pour le bisphénol A, c'est un perturbateur endocrinien dont on connaît la dangerosité pour la santé, notamment le développement et la fertilité. Il ne s'agit pas de dire qu'une tripotée de maladies nous attend forcément dans les décennies qui viennent. Encore faut-il savoir précisément quelles doses combinées à quelles molécules ont tel ou tel effet. Il ne s'agit pas non plus de dire que rien n'est fait pour nous protéger contre ces substances. En France, le droit international et européen se préoccupe, au moins partiellement, de ces problèmes. Mais ce qui m'a surpris, c'est que cette étude n'a pas utilisé de procédés nouveaux pour arriver à ce chiffre. Les scientifiques ont simplement fait une recherche ciblée de ces FCCs dans la littérature scientifique pour être le plus exhaustif possible. Et ça a doublé le nombre de substances qui polluent notre corps via l'alimentation et tous les risques et toutes les inconnues qui vont avec. L'étude conclut que ces nouvelles données sont mises à la disposition notamment des décideurs pour mieux réguler tous les produits qui côtoient nos aliments de près, mais avec combien de temps de retard ? La lecture de ces données m'a fait penser à tous les articles qu'on voit passer régulièrement dans la presse, dont on entend parler à la radio ou dans les JT, aussi bien sur la question du climat que celle de la biodiversité, sans qu'on s'en inquiète particulièrement. Juste une mauvaise nouvelle de plus. Comme l'atmosphère, comme les champs et les mers, notre corps est pollué sans, j'ai l'impression, que ce soit un sujet de débat public à la hauteur, et encore moins un sujet d'offuscation. C'est une concession de plus qu'on semble accepter de payer comme un tribut au progrès. Donc je me pose la question, est-ce que pour vous le sujet est assez abordé, compris, débattu? Le corps est-il un terrain d'écologie qu'on a aussi abandonné?
Ah non mais moi je trouve que t'es tellement dans l'actualité, enfin moi ça m'avait marqué de ouf pour les PFAS, parce que tu sais, il y avait tous ces débats autour du fait qu'il y avait des demandes de réglementation pour certaines substances et pas d'autres.
Une partie d'entre elles, oui.
Ouais, c'est ça. Et que comme seulement certains avaient été prouvés comme dangereux, bah eux, on va les interdire. Mais les autres de la même famille, bah on n'a pas encore fait la recherche, du coup on attend. Et du coup, ça me fait exactement penser à ça, ce dont tu parles, le fait que juste parce qu'ils ont cherché plus de molécules, plus de choses, et bah ils ont trouvé plus de choses dangereuses. Et donc en fait, moi, ça me fout le mort de ouf.
Oui, petite angoisse débloquée encore.
Je vous en prie.
Non, puis même merci beaucoup pour finir cette émission.
Pour rebondir sur les PFAS, il y a eu une interdiction, ce qui est dingue, des fois des mêmes catégories de molécules, mais dans certains produits et pas d'autres.
Bah, notamment, je crois que ça avait été le cas.
Les poils, justement, tout ce qui est alimentaire.
Ah
voilà,
oui,
parce que bon.
Et donc, on peut supposer un petit peu de lobbying peut-être derrière
On sait que
mais pas de diffamation. De toute façon, je ne suis personne.
Et en plus, moi,
terrorisme intellectuel.
Le pire, c'est que je sais pas vous, mais moi, ça m'étonne pas tant, tu vois, genre le fait que quand t'achètes un truc qui est emballé dans du plastique, ouais, qui est au contact du plastique pendant bah je sais pas combien d'années, parce qu'en plus enfin d'années c'est faux, mais en même temps si tu
ça
vois
peut,
y a des
ça
trucs
peut, ça
les
peut,
bananes ouais, de 2004
non mais non t'as pas fait les bananes, mais tu vois genre si jamais t'as des gâteaux qui sont dans des emballages, oui, oui. Tu sais, en même temps, il y a un côté où t'es en mode ah, mais j'aurais pu, j'aurais pu le comprendre. Tu vois, j'aurais
les
mais
en
les
plus,
trucs que tu réchauffes
ça,
en barquette, genre.
Oui, oui,
oui. Tout,
ouais.
Tu,
bah,
là,
il disait aussi
que dis,
réchauffer
logique.
Les trucs, c'est plus dangereux, apparemment. Faut se méfier des plastiques qu'on met au micro-ondes
bah,
parce
oui,
que
mais
ça libère.
Ah, bah oui,
c'est
logique. Ça paraît logique.
C'est ma grand-mère qui me disait des trucs comme ça. Genre, ma grand-mère, t'es là, mais non, tu mets que dans du Pyrex ou dans du verre au micro-ondes. Et on était là, oh, ça va, c'est écrit dessus, il y a un petit logo qui montre que ça s'appelle le micro-ondes. Mais en fait, du coup, non, c'est juste qu'on est. Juste soumis ouais, à plein de lobbies et du coup on se
mais
pose
en fait,
pas la question.
Ouais, c'est ça qui est un peu relou, c'est que tu te dis bah en fait ils ont produit des choses où ils disent ouais ça passe au micro-ondes et tout, mais en fait ils en savent rien et ils ont dit ouais faites ça, on sait pas, mais on verra bien quoi. Au
tant
pire,
qu'on nous dit pas que c'est pas vrai, c'est vrai. Voilà.
Et surtout moi ce qui me choque notamment par rapport au PFAS, c'est qu'en fait c'est une famille de molécules dans lequel du coup il y a un atome de c'est quoi
fluor
et carbone,
c'est les liaisons carbone fluor,
c'est des liaisons carbone fluor. Et du coup moi ce que je trouvais hyper étonnant par rapport à toutes les enquêtes autour des PFAS qui ont lieu là depuis quand même quelques mois, qui sont un peu à la mode, c'est le fait qu'en fait des grosses entreprises dont je ne prononcerai pas le nom, mais par exemple celles qui font beaucoup de poils, vous dites comment vous
poils, ça poil. C'est le bon débat à aborder, je pense.
Débat, ouais, là, tout suite. Et du coup, en gros, ce qui a pu être démontré, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'une molécule qui fait partie de cette famille des PFAS était interdite, en fait, il s'agissait uniquement en laboratoire de changer un peu chimiquement la structure de la molécule et donc de changer de place en fait la liaison carbone-fluor. Et du coup, ce qui fait que au final, la molécule qui est utilisée n'est pas interdite, ouais. Mais en fait, elle est totalement aussi toxique que d'autres molécules qui font partie des PFAS. Sauf que vu qu'il n'y a pas de réglementation qui sont sur l'intégralité de la famille des PFAS, forcément, en fait, à chaque fois, ça passe dans les mailles du filet. Et le temps de faire des tests scientifiques pour bien prouver que ces nouvelles molécules qui ont été créées sont soit dangereuses, du coup, forcément, à chaque fois, ça laisse 5, 6 ans, 7 ans aux entreprises, du coup, notamment. C'est des molécules qui se retrouvent dans plein d'endroits, parce que là, je parle des poils. Du coup, on va utiliser cette façon-là de le dire, mais on le retrouve dans plein de choses, quoi, dans des doudounes, dans des revêtements, etc. Et du coup, c'est fou cet aspect un peu où on a l'impression que les entreprises jouent un peu de cette lenteur un peu scientifique,
complètement, complètement.
Et parce qu'il y a besoin de cette démarche scientifique
course,
qui est lente,
quoi.
Mais du coup, c'est vrai que c'est vraiment une course.
Entre les épidémiologistes qui essayent de démontrer la toxicité de certaines molécules et au contrario les industriels qui veulent toujours avoir des molécules
mais du coup, c'est
sur
fou, parce
le marché
que le...
et continuer à vendre leurs produits en ayant de moins de coûts possibles.
Il y a un
c'est
bouquin
clair.
Qui parle
le problème,
de ça super bien, c'est La fabrique du mensonge de Stéphane Foucault. Et c'est pareil pour l'industrie du tabac, c'est pareil pour beaucoup de certains médicaments.
L'amiante aussi, il en parle dans son livre.
Et donc en fait, c'est ça,
c'est
l'impression que tu joues avec
aussi,
la vie des gens. Et tu t'en fous parce que t'as un délai de temps pour continuer à toi faire ton profit et faire ton bénéfice. Ouais. Et donc t'es un peu en mode dans la remise en question de cette humanité. Et par
mais l'interrogation que moi j'avais un petit peu aussi, c'était j'ai pas le sentiment, alors que ça touche quelque chose d'a priori encore plus intime que le changement climatique, que la biodiversité, que ce soit pas tant un sujet que ça en fait.
De ouf, parce que la santé
moi,
humaine,
c'est
quand même.
C'est ça que je me suis dit, c'est qu'a priori je fais partie des. Enfin, j'ai aussi 3600 trucs dans mon corps. J'ai pas l'impression, donc c'est une question parce que je suis pas spécialiste des médias, que ça prenne particulièrement de la place en fait dans les débats, etc. Donc je voulais aussi savoir si vous aviez le même point de vue ou si c'est moi qui...
J'ai l'impression qu'il y a un effet d'accumulation. Comme on accumule des molécules, il y a une accumulation d'informations négatives sur la pollution et tout, et que ça choque plus tant que ça pourrait choquer à une époque où on commençait à révéler tous ces...
Et je pense aussi que c'est un choix des médias parce qu'ils n'ont peut-être pas envie de faire des trucs qui plombent l'ambiance. Et
oui,
puis, il faut
rester positif, mettre.
Mais c'était positif,
trucs,
moi, ce que j'ai dit.
Non, mais c'est un peu sûr qu'il y a dans les médias.
C'est un choix politique de savoir si tu vas aborder tel ou tel sujet pendant combien de temps. Et oui, c'est en mode, ok, là, dans le 20h, on va mettre un reportage sur la porcelaine de Limoges parce que les gens ont marre d'entendre qu'ils sont pollués dans l'environnement.
On est tellement plus intéressés par la porcelaine de Limoges.
Les JT ne parlent pas suffisamment de changement climatique, pourtant, c'est un sujet qui est beaucoup abordé. Donc
et
je me dis, on peut compenser à peu près ce que beaucoup de médias apportent pas suffisamment, alors que j'ai l'impression que pour ce qu'il s'agit de corps pollués, selon mon propre néologisme, c'est pas trop compensé. Ou alors je suis à côté, il y a plein d'assos qui sont hyper mobilisés, et puis moi je les vois pas.
Il
ou...
y a Camille Etienne qui a quand même fait un beaucoup médiatique avec
sur les PFAS,
son documentaire. Ouais. Ouais. Mmh.
Mais moi je suis d'accord, et puis c'est marrant parce qu'en parlant de ça, je trouve qu'il y a de plus en plus l'émergence du mouvement One Health, qui est en train de relier les problématiques du changement climatique et les problématiques de santé publique.
Ouais.
Et ça, je trouve c'est hyper intéressant de traiter les choses de manière globale, tout comme tu peux y avoir les trucs avec les convergences des luttes. T'es en mode, ok, on voit qu'on est, on a un problème sociétal par rapport à certaines industries frauduleuses, et comment on va traiter le sujet, et c'est la manière dont on va le traiter qui va peut-être faire que ça va pouvoir avoir un impact.
Et ce que disait Foucard aussi là, dans son bouquin, c'est qu'il y a un truc entre le principe d'innovation et le principe de précaution. Est-ce qu'il faut... Ouais. Laisser le marché innover et tout le temps avancer, ou est-ce que justement il faut mettre des barrières et juste pour des problématiques de santé ou d'écologie, donc
Bah les médicaments sur la base il y a plein de problématiques et tout, mais en théorie un médicament t'es censé prouver qu'il est pas nocif pour la personne qui va le prendre dans une certaine mesure avec le truc du bénéfice risque, et en soi tu te dis bah des poils dans lesquels tu fais chauffer ta bouffe tous les jours, théoriquement ça devrait quand
ça
même
devrait,
marcher comme ça aussi, mais pas du tout en fait.
C'est hyper intéressant, en vrai on pourra en parler pendant hyper longtemps. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés déjà, et puis merci à vous d'avoir participé à ces discussions à la fois intéressantes et très marrantes. Donc on se dit à dans un mois, et d'ici là retrouvez-nous sur Instagram et X Twitter à l'adresse #scientifique, et voilà, donc tous les jeudis sur Radio Campus Paris. Et merci
un jeudi
à
par
tous.
Mois. Merci Chiara.
Merci Chiara pour l'animation.
Merci
salut.
À vous. Merci à
tous. À tous.
Des gros bisous.
De Paris, Tom, Marion, à la technique aussi. Trop.
Et à messieurs, hein, à la prochaine, et au revoir, et puis, faut bon retour, hein, au revoir, messieurs.